Alors Chris, bonjour. Merci à toi de m'avoir accueilli pour cette interview.
Bonjour.
Pourrais-tu commencer par faire une présentation de toi-même, de ta biblio?
Alors, Chris, bientôt 40 ans, auteur de bande dessinée, scénariste uniquement depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, avant ça, je suis issu d'une famille fortement marquée par l'histoire, ce qui explique aussi mon attrait par l'histoire, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai des aïeux héros de guerre par paquet. Donc, voilà, tout ça a été assez présent dans mon histoire familiale, ce qui explique que très tôt, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire. Et donc j'ai été étudiant en histoire, j'ai même failli être professeur d'histoire, avant d'être finalement barman, libraire et puis auteur de bande dessinée pour finir. Voilà. Et puis sinon, j'ai deux enfants qui ont juste l'âge de commencer à lire les bandes dessinées que je suis en train d'écrire, dont on va parler, donc ça tombe très très bien.
Alors, on est ici pour discuter de l'une de tes séries qui ne va pas tarder à sortir chez Dupuis, donc Les Brigades du Temps. Pourrais-tu commencer à nous raconter justement toute l'histoire de cette série, c'est-à-dire depuis le moment où l'idée a jailli et la concrétisation, c'est-à-dire maintenant le tome qui débarquera, si je ne me trompe pas, au mois de mars 2012, dans toutes les bonnes librairies et au Salon du Livre, j'imagine.
Oui, la sortie officielle c'est le 3 mars et la première dédicace aura lieu au Salon du Livre et ça doit être ma série qui a connu le temps de gestation le plus long parce que bon déjà elle dérive d'un certain nombre d'autres projets que je pouvais avoir auparavant ou en tout cas auxquels j'ai rêvé quand j'étais gamin mais ensuite concrètement j'ai vraiment commencé à travailler dessus au début des années 2000, j'ai plus la date précise en tête mais certainement dès 2001 dans ces eaux-là et c'était un projet qui me faisait fantasmé depuis très longtemps, qui donc tournait autour des voyages dans le temps et de cette idée du SI, voilà, et de sorte d'agence spatio-temporelle de façon très classique, hein, comme on en trouve dans plein d'autres récits par ailleurs, qui est chargée de surveiller l'histoire ou de la redresser quand elle a dérivé, etc. et tout ça. Alors après, ça a connu un certain nombre de rebondissements scénaristiques d'abord, parce que c'est une période où j'étais très attiré par le fantastique à ce moment-là. Donc les premières moutures des Brigades du Temps étaient plutôt dans une veine plus steampunk, même si elles partaient d'une réalité historique, je la faisais quand même dériver, beaucoup d'évolutions technologiques fantastiques, ou en tout cas qui n'ont pas existé, etc. Et puis petit à petit, je me suis recentré sur de l'Uchronie pure et dure, c'est-à-dire vraiment un événement fondateur qui dérive, et voilà des personnages qui viennent du futur, qui sont chargés de quelque part de ramener l'histoire dans le droit chemin, mais ça se passe quelques jours, quelques heures, quelques semaines après le moment de la dérivation. Mais cette dérivation, on le comprend très vite, va avoir des conséquences énormes sur l'histoire telle qu'on la connaît si on la laisse se développer. Donc voilà, là je suis parti sur ce postulat-là, et on va dire 2004 à peu près, c'était fixé, c'était même signé aux éditions Dupuis, et finalement ça a mis 7 ans à voir le jour. Alors là, il y a eu beaucoup de raisons qui ont expliqué pourquoi ça a mis 7 ans. Alors des raisons bassement éditoriales, des éditeurs qui changent, qui se font racheter. En tout, cette série a été suivie par trois directeurs éditoriaux depuis le départ, donc ça n'a pas aidé non plus. La difficulté à trouver le dessinateur idéal. Il y a eu plusieurs collaborations qui sont en général bien passées, mais pour diverses raisons qu'on n'a pas pu aller au bout, notamment avec Mig, avec qui on avait démarré, avec qui on avait signé chez Dupuis, donc en 2004, avec qui on a démarré sur un premier tome qui s'est éternisé sur 3 ans, et à un moment donné, il a fallu arrêter parce que bon, voilà, Mig n'arrivait plus à avancer réellement sur le projet. Et ensuite, il a fallu retrouver quelqu'un d'idéal, et j'ai fini par le trouver il y a un peu plus d'un an et demi en la personne de Bruno Duhamel, à qui j'avais déjà pensé il y a quelques années. Mais il n'était pas libre à ce moment-là. Et là, dès lors que Bruno a pris en main le dessin, voilà, là, le projet s'est relancé. Dupuis aussi y a cru à nouveau. Et puis voilà, là, il y a plus d'accroc jusqu'à la sortie maintenant au mois de mars. Mais je pense que c'est l'album, un des albums chez Dupuis, qui est reporté d'année en année depuis le plus longtemps. Je pense que chaque année, ils ont vu arriver au programme potentiellement les Brigades du Temps et qui ne sortaient jamais. Donc ça a dû devenir une sorte de.
De
Ouais,
chimère.
ou de running gag quelque part chez eux, je ne sais pas. Enfin voilà, maintenant ça y est, c'est lancé.
L'Arlésienne, quoi,
Ouais,
finalement.
l'Arlésienne, ouais.
Alors pour ma part, j'ai eu la chance de découvrir cette série en pré-publication justement dans le magazine Spirou. Et le truc qui m'a le plus marqué, ça a été justement le début. Donc on va éviter d'en dire un peu trop à nos futurs lecteurs. Mais tu commences très très fort avec Colomb, pour ainsi dire, découvrant l'Amérique. Et celle-ci le lui rendant bien, vu qu'il meurt simplement en contemplant l'île sur laquelle il vient de débarquer.
Ouais, alors c'était puisque donc les Brigades du Temps, on part dans une série longue où chaque histoire fera 2 tomes et donc va nous faire visiter un moment de l'histoire de l'humanité. Et pour démarrer, je savais que le premier récit devait être déjà connu par le plus grand nombre parce qu'il me fallait déjà présenter tout le contexte dans lequel évoluent mes personnages, l'agence Uchronia pour laquelle ils travaillent puisqu'elle s'appelle comme ça, l'agence Uchronia. Donc j'avais déjà une bonne partie du scénario qui allait être pris par la présentation du contexte propre à mes personnages et à mon univers. Si en plus je devais présenter un événement historique méconnu, c'était compliqué. Donc je me suis posé la question, quel est l'événement historique connu par le plus grand nombre, où tout le monde voilà, visualise un petit peu, à peu près ce qui s'est passé, et peut comprendre surtout instantanément que si il se passe quelque chose de pas normal, on le voit. Bon là, en l'occurrence, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Si on voit Christophe Colomb se faire tuer au moment où il met le pied sur le rivage américain, on comprend que c'est pas normal. Voilà. Là, n'importe quelle personne, même peu intéressée par l'histoire, peut se dire là, il se passe quelque chose quand même d'anormal, ça dérive. Donc voilà, je suis parti sur cette histoire-là pour ces basses raisons purement scénaristiques, pas obligatoirement parce que j'en avais un attrait plus fort que pour d'autres périodes, même si la découverte de l'Amérique et le personnage de Colomb a été aussi un personnage important dans ma jeunesse, enfin, quelqu'un qui me faisait fantasmer. Il y avait une série de 4 téléfilms d'ailleurs, je crois portugais, sur la vie de Christophe Colomb quand j'avais 11, 12 ou 13 ans. Je sais plus, c'était passé dimanche après-midi sur la télé française et j'avais adoré cette série en 4 téléfilms là. Ça m'avait vraiment passionné. Je l'ai pas revue depuis d'ailleurs, je la cherche désespérément mais je la retrouve pas. Et donc voilà, je suis parti sur le personnage de Colomb. Je pense qu'on va rester le temps de 2 voire 3 histoires dans des choses comme ça. Maîtrisé par le plus grand nombre, et ensuite on ira voir des périodes, des événements, des personnages, des lieux sans doute beaucoup plus méconnus ou plus originaux, pour aussi faire découvrir au lecteur des choses qu'il méconnaîtrait, ça se dit, oui, qu'il méconnaîtrait sur l'histoire de l'humanité en général. On restera pas non plus trop européen centré, quoi.
Oui.
Voilà.
Non, maintenant tu peux bien le dire à nous, tu as été traumatisé par la mystérieuse histoire. C'est pas la peine d'inventer une espèce de téléfilm portugais dont personne n'a jamais entendu parler.
C'est vrai que les cités d'or, ça a été bah, comme toute personne née dans les années 70, je pense, et même au-delà, puisque mes gamins aujourd'hui sont très très fans, puisque évidemment j'ai racheté le coffret en DVD. Oui, ça a été important, mais une fois de plus, je l'étais fan déjà avant. Aussi loin que j'ai des souvenirs de lecture, j'ai lu des livres historiques, j'ai lu des documentaires historiques, pour jeunesse ou autre, j'ai lu des bandes dessinées historiques, et là-dedans, la découverte de l'Amérique, ou l'Amérique, ou l'histoire des États-Unis aussi, les Indiens, etc. Ça m'a toujours fasciné. Enfin, mes bandes dessinées préférées quand j'étais enfant, il y avait évidemment Les Tuniques Bleues, il y avait Blueberry, il y avait tout ça. Donc, c'est un contexte qui me fascine depuis très longtemps. Ouais.
Alors revenons plus particulièrement à l'un des aspects. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la création et l'évolution de ton tandem de héros?
Ouais, alors ça a été donc ce tandem de héros qui s'appelle Daggy et Stuart. Alors Daggy, c'est le diminutif de Dagobert, ce qu'il ne faut jamais dire puisqu'il déteste qu'on l'appelle comme ça. Mais bon, voilà, c'est ce couple de héros. J'ai longtemps tourné autour. C'est peut-être une des phases de la création qui m'a pris le plus de temps parce que comme tout jeune scénariste, surtout à ce moment-là quand j'ai démarré, on veut absolument être très original, etc. Et puis avant finalement de me dire que au contraire un classicisme était sans doute idéal, que là aussi, c'est le couple de héros, on ne peu plus mal assorti, hein. Alors on trouve ça partout dans le cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée, depuis le couple Depardieu-Pierre Richard. en passant par les tuniques bleues, justement, Chesterfield et Blutch ou autres. Et on sait, c'est pas pour rien, si c'est très répandu, c'est que c'est générateur immédiatement d'aventures, de gags, de relations multiples et variées entre deux. Donc je suis revenu à ce couple de personnages-là, qui fait qu'il y a un vieux briscard, vétéran des voyages dans le temps, évidemment relativement incontrôlable et indiscipliné, et un jeune tout frais et moulu de l'université, qui rêve d'héroïsme, très légaliste au contraire, lui, etc. Et tout ça. Et ces deux-là vont devoir s'accompagner pour le meilleur et
Et
pour le
surtout
pire,
pour le
et
pire.
surtout pour le pire. Mais après, voilà, petit à petit, en réalité, les deux ont une biographie et un lourd passé, comme on dit, voilà,
Qui en filigrane et
qui
qui
leur donne
devient.
quand même de l'épaisseur, autre. Mais malgré tout, voilà, ce couple de personnages, c'est aussi de ce genre de bande dessinée-là que je viens. C'est quelque chose qui n'est plus tant que ça mis en utilisé, malgré tout. Peut-être parce qu'on a peur justement de faire de la bande dessinée à papa quelque part. Et comme je fais plutôt la bande dessinée adulte, par ailleurs, j'avais pas grand-chose à prouver là-dessus. Par contre, de reprendre ce côté très classique d'un couple de personnages, finalement, je me suis dit, voilà, c'est la bonne solution. Et c'est vrai que je m'amuse beaucoup avec eux.
D'accord. Une question plus particulière que je me suis posée du coup en lisant l'intégralité de l'aventure, c'est pourquoi finalement dans ton cas cette passion, tant par rapport au voyage dans le temps et surtout à l'Uchronie, qui finalement est devenue pour ainsi dire un genre connu maintenant, mais où il y a, quand tu as débuté, j'allais dire aux alentours des années 2000, était pas si connu que ça, hein. Je me souviens de la période où quand t'allais dans une librairie demander une uchronie, c'était limite si tu parlais pas du suédois ou si t'allais pas les flics qui allaient débarquer parce que c'était peut-être une nouvelle drogue en devenir.
Oui, c'est vrai, hein. Alors, bon, les voyages dans le temps, là, donc aussi loin que je m'en souvienne, ça m'a fasciné. Alors, pourquoi quelque chose nous fascine? Il y a des fois, on peut mettre un événement fondateur là-dessus. Moi, non. Le seul souvenir que j'ai, c'est le premier scénario que j'ai écrit. J'ai commencé très tôt à écrire des scénarios de bande dessinée. J'étais vraiment passionné par ça. Et dès que j'ai su écrire, en fait, puisque ce souvenir remonte à l'âge de 6 ans, et ça a dû être suffisamment marquant. Parce que j'ai encore les images en tête, et ma première histoire, c'était déjà une histoire de voyage dans le temps. C'était Tiff et Tondu, qui faisait partie de, ben justement, encore un couple de héros, de mes bandes dessinées adorées à l'époque. Et j'avais fait une machine à voyager dans le temps qui envoyait Tiff et Tondu à la préhistoire. Et voilà, j'avais 6 ans. Donc, avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu pour que déjà à 6 ans, l'idée d'un voyage dans le temps me fascine? Je ne sais pas. Après, il y a quelques autres chocs fondateurs comme ça. Il y a Nimitz, par exemple, qui a dû aussi. À mon avis, traumatisé dans le bon sens du terme, une génération de spectateurs. Je me souviens aussi des fois à quoi ça tient, hein, d'un manuel de littérature française qui devait être un des rares manuels à mettre une page de bande dessinée dedans. Et c'était une page de Blake et Mortimer, Le piège diabolique. Et c'était juste une page où ils se retrouvaient dans un métro dévasté. Alors là, c'était la partie où ils sont dans le futur et
Oui,
non pas
c'est
dans le passé.
dans le monde dévasté, quoi.
Voilà, mais il y avait quand même expliqué que c'était une histoire de machine à voyager dans le temps. Et il y avait ou peut-être deux, trois pages, mais ça se terminait sur un climax par Damned, et on ne sait pas sur quoi il tombait. Et pendant des années, je n'ai pas su sur quoi il tombait, parce que voilà, je savais pas trop de quelle bande dessinée c'était issu, j'avais pas trop d'argent pour m'acheter de la bande dessinée. Mais souvent, j'ai fonctionné comme ça, c'est que je cherchais pas tant que ça à savoir vraiment ce qui se passait dans des bandes dessinées. Et les Spirou, c'était souvent ça aussi. On achetait un recueil, on n'avait pas la suite des histoires. Par contre, d'imaginer la suite, ça me suffisait largement. Et donc voilà, bref, ça m'a toujours plu, ces histoires de voyage dans le temps. Et effectivement, quand j'ai commencé à travailler vraiment dessus au début des années 2000, ben, le seul livre. Moi, je connaissais le terme d'Uchronie, alors où je l'avais trouvé, j'en sais rien. Mais le seul livre que j'ai trouvé là-dessus, c'était le livre d'Éric Henriet, qui était d'ailleurs un très bon bouquin sur la question, mais que j'ai eu un mal fou à trouver. Quand je l'ai trouvé, j'ai eu l'impression, oui, ah, il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui s'y
Qu'est-ce que
intéresse
c'est?
aussi. Mon Dieu, un ami, voilà. Et ça a été ma bible de départ, moi, dans voilà tout ce qui m'a fait. Vagabonder l'imaginaire, et donc je te remercierai jamais assez, Eric, si tu m'écoutes. Voilà, et puis, mais quand j'en parlais, notamment mes éditeurs, ouais, il y avait quand même beaucoup d'ignorance là-dessus. Alors, après, avec tous les aléas dus à cette création. Alors finalement, ça a bonifié beaucoup le projet. Je suis content d'arriver sans doute en 2011, mais j'ai failli aussi arriver après la bataille. Par contre, parce que beaucoup de récits uchroniques sont en train de se développer en bande dessinée, ne serait-ce que le jour J de Fred Duval. Et je pense qu'au final, on arrive peut-être au bon moment où ça y est, dans l'esprit du grand public, c'est quelque chose, c'est un genre qui commence vraiment à émerger. Mais bon, voilà, il n'aura pas fallu que je mette encore 10 ans à sortir
Ouais, disons que
ce
c'est vrai
projet-là.
que l'idée maintenant marche relativement bien. Maintenant, je me souviens pour en avoir discuté avec pas mal d'amis, pas forcément fans de science-fiction ou autre, le terme ici parle tout de suite beaucoup plus que de l'Uchronie. Je m'en souviens quand j'ai rencontré ma femme, j'ai déclaré que j'étais un collectionneur d'Uchronie, elle m'a regardé avec des grands yeux, et elle-même ayant fait l'expérience avec certains de ses amis, tout de suite, c'est vrai, ici Napoléon avait gagné à Waterloo. Ou ici les nazis, ah tiens, j'ai lu un truc, j'ai vu tel film, etc. Est-ce que c'est la même chose? Ça parle tous. Oui, c'est vrai qu'au niveau sinon du genre, bah, on assiste effectivement à une explosion depuis quelque temps. Tu parles de jour J, t'as ta BD donc, qui arrive maintenant, et puis t'en as d'autres. Je pense à une série comme Nico, justement, fait par Fred Duval chez Dargaud. C'est vrai que le genre a l'air de bien fonctionner maintenant en BD, que ce soit la grande histoire ou une histoire un peu plus personnelle. Je pense aussi seulement qui sort, qui est scénarisé par Rodolphe, qui imagine, bah, c'est l'histoire d'un type en fait qui s'achète une maison et qui à un moment va tomber sur une pièce où il y a plusieurs portes. Et en empruntant une, bah, il va tomber sur une histoire iconique, mais de lui-même. Ou une, où au lieu d'être écrivain, il est devenu chanteur, et t'as la suite qui doit sortir, ainsi de suite. Pour revenir, revenons à nos moutons, j'ai envie de dire, pour revenir à ta BD, le truc qui est aussi fantastique, c'est le cas de le dire, c'est littéralement tout l'amour qu'on sent pour la SF. Toute la thématique, que ce soit le cadre, cette fameuse, cette cité que les gens vont découvrir en orbite, autour de la Terre et toute l'agence Uchronie, bah justement, est-ce que tu peux nous en dire plus
Ouais, c'est
pour
vraiment parce que les personnages au tout départ donc viennent du futur, alors dans un futur indéterminé, hein, ça peut être en l'an 3000, ça peut être bien plus tard, ça peut être plus proche, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on a cette agence Uchronia qui est intégrée au sein d'une grande station orbitale, qui est la station Hera, et qui est une sorte d'arche de Noé de l'humanité. Dans mon esprit de scénariste, ils vivent à peu près 20 000 personnes, en tout cas voilà plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui vivent là en totale autarcie, qui vivent dans une sorte de bulle d'antimatière qui donc dégageait du temps et de ses contraintes. On comprend assez rapidement qu'ils sont donc une sorte d'arche de Noé de l'humanité et qu'ils sont en lutte contre des manipulateurs qui changent l'histoire afin de les faire disparaître et que c'est en permanence une course contre le temps. Quand l'histoire dévie quelque part, si on la redresse pas très vite, eh ben, le futur va disparaître, c'est-à-dire leur propre existence. Et on compte bien, dans chacun des albums de la série, avoir régulièrement des petits épisodes qui se passent au sein de cette agence Uchronia. Pour aussi développer, pour moi, dans mon esprit, c'est une sorte de Poudlard de version science-fiction, et enfin version spatio-temporelle et voyage dans le temps, parce que les personnages, lorsqu'ils voyagent dans le temps, doivent partir nus, et totalement nus, donc et se débrouiller ensuite sur place. Et du coup, avant de partir en mission, ils sont formés à se débrouiller dans le temps, mais sous tous ses aspects, c'est-à-dire apprentissage de la langue, apprentissage du maniement des armes, des ustensiles, tout ce qu'on voudra de l'époque, etc. Alors, tout ça se fait en accéléré grâce à des machines et tout. Alors, il y a aussi d'immenses recréateurs temporels pour simuler telle ou telle période dans laquelle nos agents s'entraînent. Bref, c'est une sorte de gigantesque parc d'attractions spatio-temporel où mes personnages s'entraînent avant d'aller vraiment partir en mission dans le temps. Alors voilà, il y a énormément aussi de lieux propres au sein de l'agence qui sont autant de clins d'œil à l'histoire des récits temporels. Le bar favori des vétérans, c'est le AG Wells, etc. Bon, en permanence, je vais m'amuser avec toutes ces références, tous ces clins d'œil. C'est quelque chose que je vais absolument pas négliger parce que pour moi, ça donne de l'épaisseur à l'ensemble de la série et notamment à tous mes personnages. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette station Hera, qui est donc en plus sous menace permanente, il y aura aussi des luttes de clans, une lutte politique, parce que bah, qu'est-ce qu'on fait exactement de l'histoire? Est-ce que d'ailleurs eux-mêmes sont réellement les gentils à un moment donné hein, leur histoire, est-ce qu'elle n'est pas en train de les mener tout droit au gouffre? On ne sait pas, pour l'instant ils ne savent pas qui sont les manipulateurs qui cherchent à les faire disparaître et qui changent l'histoire. Et ce sont peut-être des humains qui viennent du futur également en lutte pour sauver leur propre dimension temporelle quelque part. Donc voilà. J'avouerai en toute franchise au lecteur que moi-même, je n'en sais pas obligatoirement plus pour l'instant, et c'est pas obligatoirement ce qui m'intéresse le plus, mais ce qui m'intéresse, c'est de mettre sous pression en permanence mes personnages, et surtout de faire vivre ce microcosme qu'est l'agence Uchronia.
Alors, deux choses, c'est amusant parce que ça me rappelle une vieille série de SF, je sais pas si tu la connais, ça a été écrit par Pierre Barbet chez Fleuve Noir Anticipation, cette nuit, Enquêteur Temporal.
Non.
C'est sorti dans les années 70. À l'origine, c'était vraiment la série de SF avec un type qui représente, entre guillemets, l'Empire terrien et qui joue un peu les redresseurs de tort. Et à un moment, Barbet s'est amusé à la faire bifurquer et à imaginer une série. Le type était envoyé dans l'histoire pour redresser une situation qui avait divergé. Par exemple, les deux premiers tomes, c'était Rome doit être détruite et Carthage doit être détruite. En fait, on mettait à jour une espèce de complot où la Terre se mourant faute de natalité, des gens étaient allés faire un voyage dans le temps et récupérer en fait des enfants à l'époque de la guerre entre Rome et Carthage. Et pour éviter que ça se remarque, décider de soutenir le côté carthaginois en donnant à Hannibal les moyens de gagner finalement par rapport à Rome. Donc le héros est envoyé pour redresser ça. Puis ensuite tu tombes vraiment sur des aventures menées à 100 à l'heure. Tu te rends compte que le but des méchants n'était pas si méchant que ça, que c'est compliqué, etc. etc. Alors, tu as eu quelques volumes, certains qui étaient. La plupart étaient vraiment assez étonnants. Tu en as une en fait où on tombe sur une alliance secrète entre les Templiers et les Assassins pour permettre un règlement de la situation pendant les croisades au niveau de Jérusalem et de la Terre Sainte. Tu en as une autre, c'est la dernière dans mes souvenirs que j'ai lue, où il s'amuse à imaginer que Barbarossa réussit. Donc, où tu vois justement toutes les recherches que faisait Barbet, tout le potentiel et le fait qu'il s'amuse énormément avec l'histoire. Alors, beaucoup de clins d'œil pour ma part que j'ai aperçu, tu as le Pony Express, où au début on voit un messager qui passe à vitesse grand V pour amener le fameux message digne, pour ainsi dire, du malheureux Athénien crevant en arrivant à Athènes pour déclarer qu'ils ont gagné un marathon. Tu as effectivement, comme tu dis, le clin d'œil à Terminator, les types qui se retrouvent à poil, ce qui nous faut une superbe scène extrêmement cocasse, vu qu'ils débarquent dans l'Espagne et dans le, enfin, pour ainsi dire, dans le cercle réservé de la reine Isabelle, reine très catholique, donc j'imagine la pubie d'André de l'époque, quand on voit débarquer deux types complètement à poil et qui doivent se débrouiller pour trouver quelque chose à porter. Et t'en as d'autres, tiens, par exemple, deux personnages qui, pour ma part, sont des clins d'œil à part entière et des personnages extrêmement intéressants, le Catoméléon et le personnage de Joey. Alors, si tu peux juste nous en dire un peu, vu que c'est quand même une des grosses surprises de la fin de l'album.
Ouais, alors le Catoméléon est une petite bébête à poil, qui peut être une sorte de petit gremlins, c'est notre spip à nous en l'occurrence, et il vient tout bêtement d'un besoin scénaristique, c'est que comme je voulais absolument faire partir mes personnages à poil, puisque une fois de plus l'idée était qu'ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord et non pas l'aide technologique du futur, je voulais pas mélanger justement du futur avec l'histoire, il fallait malgré tout qu'ils puissent rentrer. Or, il ne pouvait donc pas faire venir la technologie nécessaire pour pouvoir remonter dans le temps, dans le futur. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée d'utiliser tout bêtement la biologie et qu'ils aient fait la découverte de ce petit animal qui est justement ce qui leur a permis de voyager dans le temps, qu'un petit animal qui agit sur la matière et qui est capable de recréer, puisque
C'est la clé du retour,
c'est la clé du
finalement.
retour, puisque l'idée étant que pour voyager dans le temps, en fait, ils créent un espace totalement identique. Au passé, sauf que voilà, une pièce à l'identique ne peut pas exister à la fois en 1300 et en 3000, donc voilà, il y a une collusion
Passons au
temporelle.
paradoxe.
Voilà, et pour revenir, ils font la même chose. Voilà, le Catoméléon recrée une pièce du futur, et du coup, ils peuvent à ce moment-là y retourner dans le futur. Et ce petit personnage va nous servir beaucoup parce que on ne sait même pas en réalité à quoi il ressemble, puisque dès lors qu'il peut manipuler la matière, On n'est pas certain en réalité qu'il ait l'apparence qu'il se
Ouais,
donne lui-même.
c'est vrai qu'il a une forme assez étonnante.
Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est extrêmement facétieux, extrêmement farceur,
Ouais, c'est un gremlin pour le
voilà.
coup,
Et
c'est
que
vrai.
du coup, ses pouvoirs, parfois, il les utilise à tort et à travers. Le seul truc que j'ai fait, c'est pour qu'il soit quand même tout contrôlable, c'est que ce catoméléon s'attache systématiquement à un personnage, et c'est le catoméléon du personnage, et point barre, et que là,
Ouais,
celui...
c'est un peu le grognon de l'Oraline finalement.
Exactement. Sauf que là, dans notre récit, donc il s'appelle Chouchoune, ou elle s'appelle Chouchoune, une fois de plus, on n'en sait absolument rien. Et bien ce Chouchoune-là va s'attacher cette fois à nos trois héros. Et nos trois héros, puisque au-delà d'Aggie et Stuart, le troisième héros est une héroïne, en l'occurrence, qui s'appelle effectivement Joey, qui est une sorte d'agent d'élite qui est envoyé en éclaireur dans les Uchronies pour préparer
Préparer
le
le terrain.
terrain. Voilà. Et là, bah, c'était le besoin de mettre une présence féminine là-dedans, et une présence féminine séduisante pour le coup, évidemment, pour que nos personnages, au-delà de leur amitié, soient amoureux de la même personne à terme, enfin voilà, se battent un peu pour la même femme. Alors évidemment, ils ne sont pas prêts de conclure, hein, autant être clair. Et elle-même, Joey, voilà, aura de l'attirance pour les deux, ou de la tendresse, ou ce qu'on voudra. Mais
Mais
voilà,
ça n'usera beaucoup
c'est...
de la situation.
Oui, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir m'amuser aussi longtemps, oui.
Alors, un truc, vu que c'est le premier tome, et comme tu le dis à chaque fois, ça va être automatiquement des histoires bouclées en deux tomes, pour ainsi dire.
En tout cas, dans un premier temps, oui, parce que je veux pas non plus faire trop long, parce que sinon trois tomes, voilà, 3 ans pour aller au bout
D'une
d'un récit, c'est
histoire.
un peu trop long. En même temps, un seul tome est pas assez long pour pouvoir vraiment développer une uchronie de A à Z. Il y a la vie dans l'agence qu'il faut mettre en scène, et puis voilà, dès lors que l'histoire commence à dériver, il faut que j'ai le temps quand même de mettre en scène ses conséquences potentielles, etc. Donc voilà, deux tomes est le format idéal. Après, rien nous empêche sur des histoires peut-être des fois plus simple ou avec moins de conséquences de faire des one shot, etc. Bon, tout est possible là-dessus, mais on va démarrer dans un premier temps au moins les 3-4 premiers récits, si Dieu nous prête vie, le grand capital, un peu d'argent et les lecteurs beaucoup de réussite, voilà, ça se passera en 2 tomes, ouais.
D'accord. À ce niveau-là, justement, plutôt, vu que ta série va être un multivers, comme on en discutait un peu avant cette interview, on peut considérer aussi que ce sera, comme tu le dis, une multisérie avec plein de potentiel, finalement, éventuellement quelques one-shots, pas forcément avec toi aux commandes, des petites histoires courtes, j'imagine, qui peuvent aussi sortir dans le magazine Spirou, voire même ensuite, c'est là où le potentiel de la série. Et fantastique en soi, c'est que finalement on peut la décliner sur énormément de trucs. Vu qu'à ce niveau-là, l'histoire étant un champ, pour ainsi dire, suffisamment vaste pour que tu puisses t'amuser avec n'importe quoi. Alors autant dire à nos lecteurs, au niveau de ce premier tome, bah, donc on va jouer, enfin tu joues vraiment sur un choc de civilisation, qui arrive à la fin du premier, bah, les lecteurs s'en rendront compte, il y a un cliffhanger. Absolument superbe, et on se doute de ce qui risque d'arriver dans le deuxième. Donc là, je dirais, c'est vraiment la découverte de l'Amérique. Pour conclure, tu as déjà quelques petites idées sur la suite, effectivement, des 2-3 thèmes, histoire bien, j'allais pas dire générique, mais bien compréhensible par tous, histoire de définitivement bien ancrer la série, et ensuite, effectivement, des termes plus exotiques ou sur d'autres pays, par exemple, prenons la Chine ou la Russie, ou une bataille navale,
Ouais,
à tel endroit.
il y a énormément de choses. C'est vrai que le champ des possibles est immense. Maintenant, on a déjà défini 4-5 histoires possibles qui seraient idéales, une fois de plus, en tant que deuxième cycle. C'est-à-dire, il faut qu'on reste encore dans des histoires relativement maîtrisées par tout le monde, et en même temps, qui sont générateurs voilà, d'un vrai récit et d'aventure
Suffisamment évocateur.
voilà, suffisamment chouette. Et puis, l'idée aussi est de vraiment varier. C'est-à-dire, il y a une histoire qui est écrite, par exemple, autour de Jeanne d'Arc, qui se retrouve du côté anglais, qui nous fait... Trippé, Duhamel et moi, Dupuis également, mais qui, en termes d'esthétique, est un peu trop proche de la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire les uniformes. On est dans le Moyen Âge, la découverte de l'Amérique, les conquistadors. On est encore dans cette esthétique-là. Donc, on voulait vraiment varier. Du coup, ça nous amène quasi forcément à quelque chose de plus contemporain, on va dire 18e, 19e, 20e siècle, idéalement, parce que même l'Antiquité. Et pas très éloigné des Aztèques, hein, enfin les pyramides, etc. Et tout ça, on retrouverait ça. Donc clairement, le deuxième cycle sera dans cette période contemporaine, on va dire, soit de la révo qui court de la Révolution française jusqu'à nos jours. Après, là-dedans, il y a un certain nombre de récits possibles. On se laisse encore un peu de temps à décanter tout ça, mais on va pas mal s'amuser, je pense.
Alors, soulignons d'ailleurs à ce propos, histoire de lui rendre lui aussi énormément honneur, c'est le graphisme absolument superbe du dessinateur de Benoît,
Bruno.
Bruno, pardon, de Bruno, où pour le coup on a vraiment une aventure. J'ai l'impression de relire finalement les aventures. Bah, j'imagine que tu as lu aussi quand on était gosse dans les années 70-80, donc tout le potentiel avec des héros attachants. De l'humour, une grande aventure, des fins à suspense, ou comme tu dis, oh bon Dieu, mince, va falloir attendre pour avoir la suite, qu'est-ce qui va se passer, ou on peut se laisser du coup à imaginer une suite éventuelle. Là, faut le dire, t'as un scénario de génie, mais t'as également un type qui a des doigts en or pour
Ouais,
dessiner une aventure absolument magnifique.
Duhamel, c'est la grande chance parce que, bon, c'est vrai qu'une fois de plus, on n'a rien inventé. L'idée était de revenir à cet esprit qu'on pourrait aussi qualifier de pulp hein, dans la SF ou autre, de la bande dessinée populaire dans le bon sens du terme, avec des récits d'aventure à suivre, des héros, etc., récurrents et tout. Bon, donc, de même que j'étais dans cette veine-là très classique, jusqu'on modernise ce qu'il faut pour que, effectivement, on fasse pas de la bande dessinée à papa, il fallait un dessin aussi très franco-belge, comme ça, dans la lignée historique de Spirou, de Dupuis. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui travaillent dans cette veine-là, hein, des auteurs comme Thierry Martin, des choses comme ça. Moi, je cherchais quelque chose du côté de Conrad, qui avait fait Les Innommables. Je voulais un graphisme que j'appelle nerveux, comme ça. Et c'est vrai que Duhamel a ce dessin-là. L'immense avantage chez Duhamel, c'est que d'abord, il adore l'histoire, ce qui est évidemment un préalable indispensable, mais il adore toutes les périodes historiques. C'est-à-dire, lui, ça lui pose absolument aucun problème de faire de l'Antiquité, de la Révolution française, du Moyen-Âge, etc. Tout le fait triper avec des plaisirs différents. Donc, c'est des vraies discussions qu'on a entre nous sur qu'est-ce qu'on pourrait faire après. On se fait rêver tous les deux mutuellement sur ce qu'on pourrait faire comme histoire. Il n'était pas un dessinateur de science-fiction, mais il s'y est mis et plutôt avec bonheur, mais il a encore beaucoup de choses justement qu'il a envie de fouiller là-dessus. Et puis c'est surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a une générosité, Bruno, dans son dessin, c'est que il y va jamais avec le dos de la cuillère. Et quand moi je lui sors des scénarios, effectivement ça fait marrer tout le monde, mais il y a 80 000 esclaves qui débarquent au pied des pyramides aztèques. Je dis pas qu'il dessine les 80 000 Pékins, mais on a des
On
vues
en a une
générales de
vue,
Tenochtitlan, on a les gens qui arrivent, etc.
ça se
Donc
voit, ne serait-ce qu'au début, quand on voit Colomb débarquant et finalement mourant devant un pays, alors qu'il n'a même pas conscience finalement qu'il vient de découvrir un nouveau pays, ou une scène à la fin où pareil, les héros redébarquent, et là on voit une mise en scène des guerriers aztèques qui fait carrément Apocalypse Now, avec des costumes, des armes. On est soufflé, même chose au niveau de l'Espagne, que ce soit au niveau des costumes. Non, c'est vrai qu'il y a une profondeur, il y a une
Il a un vrai
générosité.
souci du détail et c'est vrai qu'il y va, il y va pas avec le dos de la cuillère là-dessus, il donne vraiment beaucoup de lui et c'est vrai que comme malgré tout il garde beaucoup de dynamisme dans son dessin, il me permet surtout ce que je ne pouvais pas obligatoirement faire avec d'autres essais préalables, de mettre beaucoup d'humour puisqu'il a ce dessin justement semi-réaliste, franco-belge, grenet quelque part, presque, si nos personnages n'ont pas des grenets, mais il est dans cette veine-là et c'est vrai qu'on peut faire du Tex Avery presque à la limite si on voulait, on peut forcer les choses, les bagarres, ce qui arrive à nos personnages, etc. Donc il y a à la fois le réalisme de la reconstitution et l'humour voilà, que je peux faire passer par son dessin. Donc pour l'instant, voilà, j'espère qu'on s'entendra encore pendant quelques décennies pour pouvoir s'amuser avec cette série aussi longtemps que possible. Ouais.
Pour conclure, donc le tome 1 sort pour le Salon du Livre. J'imagine que le tome 2 va. Vous allez essayer de le sortir pour la fin de l'année, ou faut-il l'attendre plutôt pour 2013? Enfin, si les Mayas ne nous ont pas désintégrés d'ici
Voilà,
là.
si les Mayas ne nous ont pas désintégrés avant qu'on désintègre les Aztèques. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que le tome 2 commence à être prépublié dans Spirou à l'été 2012. Après, on serait prêt, je pense qu'on sera prêt à le sortir en fin d'année 2012, mais là, c'est plus une stratégie
Ouais,
de
c'est une question de
Dupuis.
logistique.
Voilà, est-ce que, on va dire, en gros, ce qui est arrêté, c'est que si le tome 1 vraiment exploser tous les scores, on peut rêver, il pense qu'il le sortirait quand même vraiment rapidement le tome 2 derrière le plus rapidement possible, parce que ça veut dire que la série déjà est lancée. Alors que sinon, pour l'installer, il faut pas non plus des fois sortir trop
Printemps
tôt.
2013,
Oh non,
ouais.
ça serait début 2013 quand même,
Début
mais on
2013, ouais.
laisserait passer Noël et on le sortirait sans doute pour Angoulême, par exemple, 2013, en janvier 2013, quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on prévoit quand même, au bas mot, un album par an, idéalement, hein, tous les 10 mois, grosso modo, voilà, pour quand même pouvoir avancer dans la construction de l'univers et surtout tester le plus possible d'Uchronie, voilà, possible. Donc voilà, dans l'idée, en tout cas, c'est pré-publication dans Spirou à l'été prochain, et puis voilà, date de sortie est pas totalement arrêtée encore.
Eh ben, en tout cas, merci, parce que ça signifie que je pourrais revenir en fin d'année pour te poser des questions pour le tome
Voilà,
2.
exactement.
Eh ben, écoute, Chris, merci beaucoup. Donc, une
Merci.
série à découvrir qui ne va pas tarder à débarquer. Et autant le dire, au niveau Uchronique, ça va déménager.